إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا ندرس هذا الكتاب المبارك، ألا وهو شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى، على شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. وما زلنا في كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج إليها كالأنساب ونحوها، كالأنساب ونحوها. طيب، دونك بورسوي بإذن الله تبارك وتعالى l'explication de منهج السالكين. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant القضاء، يعني le jugement، الدعاوى، les plaintes، البينات، les preuves، وأنواع الشهادات، différentes formes de témoignage. طيب، donc il avait dit l'auteur rahimahullah ta'ala qu'il n'est pas permis que la personne témoigne si ce n'est avec science, avec certitude, avec science, avec connaissance. Et comment va se concrétiser donc la science et la connaissance pour pouvoir avoir le droit de témoigner? Premièrement, par la vision oculaire, yani un témoignage oculaire, la vision. Deuxièmement, on avait dit un témoignage auditif. Un témoignage auditif. Taïeb. Troisièmement, ce qu'on appelle ici istifada. On va expliquer ce que veut dire ce terme-là, inshallah. Donc, l'istifada qui va se réaliser, taïeb, et qui va permettre de connaître les choses, de connaître les choses. Et cette istifada qui est indispensable pour connaître certaines choses telles que les liens généalogiques et autres que cela. Taïeb. Naam. قال استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج إليها كالأنساب ونحوها، كأن يشهد أن فلان ابن فلان فهو لم يحضر حمل أمه به ولا ولادته، لكن استفاضة بين الناس أن فلان ابن فلان. دونك الاستفاضة هو الخير الذي ينتشر في مكان ما ويكون مشتهرا عند الخاصة والعامة. قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة، واختلفوا فيما سواهما، فقال أصحابنا: تجوز في تسعة أشياء: النكاح والملك المطلق والوقف ومصرف والموت والعتق والولاء والولاية والعزل. Donc on va expliquer ce qu'est vraiment l'istifada. Le terme l'istifada, c'est toute information. والخبر والخبر الذي ينتشر في مكان ما. Une information qui s'est diffusée dans un lieu. Une information qui s'est propagée, diffusée dans un lieu spécifique. Et donc c'est devenu quelque chose qui est notable et célèbre et connu de tous, que ce soit yani les gens de la masse ou les gens qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. C'est une information, c'est un élément qui est connu de tous. طيب، donc on appelle ce cas-là, cette situation, elle istifada. Il dit Ibn Qudama dans Al-Mughni que les gens de science sont unanimes sur la validité du témoignage qui est basé sur l'istifada. Que ce soit concernant yani, la filiation parentale ou les naissances. Cela dit, les savants ont divergé sur les autres domaines autres que la filiation parentale et la naissance. Il dit donc, Ashabuna, yani, les gens de son madhhab, le madhhab al-Hanbali, ils disent qu'il est permis également à l'istifada de se baser dessus dans 9 choses. Et puis il les a cités, donc les 9, al-nikah, le mariage, al-milk al-mutlaq, la propriété de manière générale, al-waqf, yani le fait de faire disposer d'un bien hein, pour une certaine catégorie de personnes, pour qu'ils puissent profiter de ce bien-là, on dit le waqf, wa et ceux, donc les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui pourront profiter de ce bien, al-maut, la mort, al-itq, l'affranchissement des esclaves, al-wala, donc le lien qui va en découler de cet affranchissement-là, al-wala, entre le maître et l'esclave, al-maut, la mort, al-wilaya, yani le tutorat, wal-azl, qui est la destitution. Donc, quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour détailler chacun de ces termes ici, mais ce que nous devons retenir ici, c'est que l'istifada est un des moyens qui peut nous permettre d'arriver à ce qu'on appelle à l'acceptation d'un témoignage. Donc, l'istifada, on le rappelle, huwa al-khabar alladhi yantashiru fi makan ma wa yakunu mujtahiran 'inda al-khassati wal-'amma. Une information qui s'est propagée dans un lieu et qui donc est devenue connue de tous, que ce soit les gens de la masse ou les gens yani, particuliers et spécialistes ou spécialisés. Non. Idem, l'ansab ka an yashhada ana fulan de fulan. Donc concernant mathalan, par exemple, le lien familial, le lien de parenté, comme le fait que la personne va témoigner que un tel est le fils de un tel. Un tel est le fils de un tel. Donc celui qui a témoigné de cela, il n'a pas forcément assisté à la grossesse de la mère de la personne. Taïeb, il n'a pas forcément vu de ses propres yeux la grossesse de la mère de cette personne-là, au sujet de laquelle il a attesté qu'il est le fils de une telle ou de un tel. Il n'a pas assisté non plus à l'accouchement ou à sa naissance. Mais malgré ça, il peut témoigner que un tel est le fils de un tel, car c'est une information qui est connue et qui est propagée, bilistifada, qui est propagée et qui est connue de tous, yani le fait que un tel est bien le fils de un tel. Wadih? C'est clair? نحوها وما أشبه النسب كالموت والملك مطلق ونكاح ووقف وعتق وخلع والطلاق وما أشبهها et d'autres exemples également de domaines dans lesquels l'istifada est acceptée pour valider un témoignage. On a dit la mort, la propriété de manière générale, le mariage, le waqf, l'affranchissement d'un esclave, le khul', la séparation entre un mari et son épouse à travers ce qu'on appelle le khula, ou le divorce également, et autre que cela. Donc, s'il est connu de manière connue, de manière diffusée dans la société, dans un lieu particulier, qu'un tel a divorcé une telle, alhamdoulilah, la personne peut témoigner de cela. Est-ce que c'est clair? Wada? C'est clair? Hein? Alhamdoulilah. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه ابن عدي رواه ابن عدي في كتابه الكامل في ضعف الرجال وأخرجه الحاكم والبيهقي، وذكره ابن حجر في البلوغ، وقال أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ. Puis l'auteur de citer un hadith. Il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à un homme, vois-tu le soleil, Tarashems, vois-tu le soleil? L'homme de répondre, na'am, oui. Il dit alors, ala mithliha fashhad. Donc, en te basant sur ce qui est identique au soleil, témoigne. Sinon, ne témoigne pas. Ça veut dire quoi? C'est une image pour dire, si tu veux témoigner, témoigne sur quelque chose de clair, quelque chose d'évident, quelque chose de certain, de sûr. Car si tu n'es pas certain et si tu n'as pas de preuve de ce pourquoi tu témoignes ou de ce dont tu témoignes, wada, délaisse, ne témoigne pas. Donc ne témoigne que si la chose elle est claire et évidente et prouvée par des choses concrètes, aussi claires que le soleil. Sinon, ne témoigne pas. Le hadith rapporté par Ibn Adi. Donc le sens, il est bon, mais malgré ça, le sens de ce hadith, ou de cette parole, il est bon, mais le hadith n'est pas authentique, car Ibn Adi l'a rapporté dans son livre, qui est Al-Kamil fi Du'afa al-Rijal, Al-Hakim l'a rapporté, le Bayhaqi l'a rapporté, et Ibn Hajar a dit dans le Bulugh, que Ibn Adi l'a rapporté avec une chaîne de transmission qui est faible, qui est daïf, et Al-Hakim l'a authentifié, mais il dit qu'il a fait une erreur en l'authentifiant. Wallahu ta'ala a'la. Mais quoi qu'il en soit, bien sûr, le sens, il est bon, il est correct, bien sûr. Personne n'a le droit de témoigner si ce n'est avec une science certaine et une preuve. Wa min mawani'i ash-shahada ma dhinnatu at-tuhma ka shahadati al-walidayn لأولادهم وبالعكس وأحد الزوجين للآخر. طيب. Maintenant on va passer par. On a donc mentionné ici auparavant, au préalable, les conditions qui font que la personne a le droit de témoigner. On a dit un témoignage oculaire, un témoignage auditif et l'istifada. طيب. Maintenant on va parler des choses qui vont être un obstacle au témoignage. Donc, qui empêcheront la personne de témoigner. Et à cause desquelles, la personne n'aura pas le droit de témoigner. Donc, parmi ces choses-là, on a ce qu'on appelle « mardhinnatut tuhma », la suspicion de partialité. Et on va traduire ça comme ça. La suspicion de partialité. Le fait que tu puisses être suspecté, eh bien, d'être partial, de ne pas être impartial et juste, mais au contraire être partial, c'est-à-dire prendre le parti de quelqu'un parce que ben il y a des liens entre toi et la personne. Exemple, le témoignage des parents pour leurs enfants. Donc, le fait que les parents témoignent en faveur de leurs enfants, eh bien ceci n'est pas accepté, c'est refusé. Ou l'inverse, le fait que les enfants témoignent en faveur de leurs parents. Ceci également sera refusé. Ou alors le témoignage d'un des deux époux en faveur de l'autre. Et du mari en faveur de sa femme. Ou de la femme en faveur de son mari, par exemple. Surtout en ce qui concerne les parents et les enfants. Et ou les enfants en faveur des parents. Ou entre les deux époux. فقال الشيخ سليمان حفظه الله فلا تقبل شهادة الوالدين لأولادهم ولا الأولاد لوالديهم ولا أحد الزوجين للآخر لأنه قد يتساهل لشدة القرابة لأن كل واحد منهما يريد إيصال الخير للآخر فمذنة التهمة قائمة. Dit le Cheikh, donc là, le témoignage des deux parents en faveur de leurs enfants n'est pas accepté, comme celui des enfants en faveur de leurs parents, et également celui d'un des deux époux pour son épouse, hein, ou l'épouse en faveur de son époux. Pourquoi? Pour quelle raison, me direz-vous? Eh bien, parce que il y a cette suspicion de partialité qui peut provoquer le fait que la personne soit négligente et fasse preuve de laxisme à cause du fait qu'il y a un lien très fort qui les unit. Et pourquoi? Parce que chacun de ses membres, que ce soit les enfants pour leurs parents, ou les parents pour leurs enfants, ou le mari pour sa femme et la femme pour le mari, eh bien, veut du bien pour l'autre. Veut du bien pour l'autre, et il se peut que la personne fasse un témoignage qui n'est pas impartial en faveur de son partenaire ou de son enfant ou de ses parents. Donc la suspicion de partialité, elle existe et on doit la prendre en compte. Et donc ce genre de témoignage ne sera pas accepté. Wallahu ta'ala a'lam. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est clair? Hein? Alhamdulillah. Al-khulasa, annaha la tuqbal shahadatu amudi ou amudi nasab ba'dihim li ba'd. وعمودي النسب هم الأصول من الأمهات والآباء والأجداد والجدات والفروع من الأبناء والبنات وأولادهم وإن نزلوا. Donc en résumé par rapport à ce genre de témoignage, le témoignage de ces deux, je dirais, colonnes généalogiques ne sera pas accepté. C'est-à-dire la colonne généalogique, ce qu'on appelle l'Usul, les ascendants, qui sont les mères, les pères, les grands-pères et les grands-mères. D'accord? Et ce qu'on appelle el-furu', les descendants, qui sont les fils, les filles, et les petits-fils, et les petites-filles, et ainsi de suite.
Les frères et sœurs, c'est...
Non, ils ne sont pas concernés. Ici, encore une fois, on parle du témoignage des usul, c'est-à-dire des ascendants. Père, mère, grand-père, grand-mère, etc. Et des descendants, fils, filles,
C'est-à-dire les filles, les frères,
petits-fils,
ils ont
petites-filles.
voté.
Hein?
C'est-à-dire les frères, ils ont voté.
Ça veut dire que, na'am, du coup, ça veut dire que, ici, l'interdiction, le refus du témoignage ne concerne que les parents et les enfants, ou les enfants et les parents. C'est bon? Classe. Na'am. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والعدو على عدوه فلا تقبل شهادة العدو على عدوه للحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه كما في الحديث لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود. Puis il continue l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, en disant donc, également il n'est pas permis que l'ennemi témoigne contre son ennemi. Donc le témoignage d'une personne contre et en défaveur de son ennemi, eh bien ce témoignage, il est refusé également. Il n'est pas accepté. D'accord? Celui qui témoigne contre son ennemi, son témoignage n'est pas accepté. Et cela en vertu du hadith que l'auteur ici va citer juste après. Pourquoi? Eh bien parce que la personne pourra être suspectée, eh bien, de vouloir du mal, de causer du tort à son ennemi, en faisant un témoignage qui, du coup, peut ne pas être impartial et juste. Tu comprends? Donc le fait de témoigner contre son ennemi, ce témoignage-là n'est pas également accepté, il est refusé. Et cela par rapport au hadith dans lequel il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La yajuzu shahadatu kha'in wa la kha'ina. » Il n'est pas permis, il n'est pas accepté, le témoignage du traître et de la traîtresse, le témoignage non plus de celui qui déteste son frère, eh bien son témoignage en défaveur de son frère n'est pas accepté également parce qu'on sait qu'il a de la haine envers lui, qu'il le déteste. Voilà, tajouzu shahadatu el qani'il ahl el bayt. Également le témoignage de l'esclave ou du servant en faveur de les gens de sa maison et de ses employeurs. D'accord? De ses employeurs ou de ses maîtres. Tayyib. Le hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وأخرجه ابن ماجة مختصرا وقال ابن حجر في تلخيص سنده قوي والقانع هو السائل المقتنع بأدنى قوت المراد به هنا أن من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع لا تقبل شهادته له لأنه يجر نفعا بشهادته لنفسه لأن ما حصل من المال للمشهود له يعود إلى الشاهد لأنه يأكل من نفقته. Donc on revient au hadith rapporté par Abu Daoud, Ahmed, selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père. Également rapporté par Ibn Majah, de manière résumée. Mais il dit, donc plutôt, Alhamdulillah, il dit Ibn Hajar, dans Talkhis, que sa chaîne de transmission, elle est forte. Alhamdulillah. Donc le terme al-qani' à la base c'est celui qui demande une chose et qui se satisfait du minimum de ce qu'on lui donne. Qui demande et qui se satisfait du minimum de provision, de nourriture qu'on lui a donné. Hada wa al-qani'. Mais ce qui est visé dans le hadith, quand il dit la tajouz shahadatu al-qani' li ahli al-bayt, on n'accepte pas le témoignage d'un qani' pour les gens de la maison, de la maison qu'il a employé, yani, eh bien c'est celui qui est qui vit sous les dépenses d'un tel, comme l'esclave, le servant, etc. Donc l'esclave ou le servant, son témoignage en faveur de son maître ne sera pas accepté. Le témoignage de l'esclave en faveur de son maître ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce que son témoignage en vérité en faveur et dans le sens des intérêts de son maître en vérité c'est aussi dans son intérêt à lui. D'accord? Car l'intérêt de son maître comprend également son propre intérêt à lui. Car c'est son maître qui pourvoit et qui le nourrit, qui l'habille, qui le loge, etc. etc. Vous voyez? Et donc, par conséquent, ce que son maître va gagner grâce au bon témoignage pour lui, eh bien, reviendra également au témoin. Donc, du coup, c'est pour ça que cette suspicion également de partialité, de faire en sorte que le témoignage soit en faveur de son maître, et donc, du coup, en sa faveur également, fait que ce témoignage-là ne sera pas accepté. Ne sera pas accepté. C'est bon? Est-ce que c'est compris? Alhamdulillah. ثم قال وفي الحديث من حلف على يمين يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. يعني أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. والحديث فيه تحذير من الحلف الكاذب. فإذا حلف شخص وهو كاذب ليأكل حق غيره فقد فعل كبيرة من الكبائر. لأنه أكل حراما وكذا استهان الله أو استهان بالله تبارك وتعالى الذي حلف به والعياذ بالله. Puis dit dans le hadith dans lequel dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jure et prête serment en prenant le bien d'un musulman en mentant, il y a celui qui jure, qui prête serment de manière mensongère pour prendre les biens d'un musulman, il rencontrera Allah et Allah sera en colère contre lui à ce moment-là. Voyez? Le hadith, on dit qu'il est muttafaqan alayh, c'est-à-dire qu'il a été rapporté par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim. Le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Donc le hadith comprend, ce hadith-là, il comprend une mise en garde contre, bien sûr, le faux serment, ou le serment mensonger, le fait de jurer sur Allah tabarak wa ta'ala en mentant. Donc lorsque une personne jure sur Allah en mentant, en plus pour manger le bien d'autrui injustement, il aura commis certainement un péché majeur parmi les péchés les plus graves. Pourquoi? Car il a consommé et mangé quelque chose qui est haram pour lui, qui est interdit. Et à cause du fait également qu'il s'est servi du serment sur Allah tabarak wa ta'ala pour faire cette injustice, eh bien il aura également mésestimé Allah tabarak wa ta'ala. Il aura montré une forme d'irrespect, de mésestime à l'égard de son Seigneur tabarak wa ta'ala, sur lequel il a juré en mentant et pour s'accaparer les biens d'autrui de manière injuste. Qu'Allah nous en préserve. Bon? C'est compris? Alhamdulillah. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. فالأسبوع القادم إن شاء الله ننتقل إلى باب التالي وهي باب أو وهو باب القسمة. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.